Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge, pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition du 25 août 2014, République démocratique du Congo. Le gouvernement a déclaré que la province de l'Équateur est touchée par le virus Ebola.
Le constat sur terrain montre que la maladie a déjà tué 13 personnes.
Le ministre de la Santé Félix Kabange Numbi. L'Otogo envisage des alternatives aux pesticides qui dégradent l'environnement et sont une réelle menace pour la santé.
Nous avons des enfants qui naissent sans aucun membre. Il y a des cultivateurs à force d'être exposés aux pesticides aujourd'hui qui ont des problèmes de mémoire.
Éric Assiglé, environnementaliste au ministère de la Santé. Israël a ciblé à nouveau la direction du Hamas, tuant un responsable financier du groupe. Un journaliste américain enlevé en 2012 en Syrie a été libéré par les rebelles islamistes. Et avant de développer ces titres et d'autres sujets d'actualité, voici le journal.
En République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans le district de la Chuapa, où au moins 13 personnes sont mortes de la maladie depuis son apparition. La nouvelle a été annoncée hier soir par le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi. C'est la 7e épidémie en RDC depuis celle de Yambuku, survenue en 1976 dans la même province, a précisé le ministre. Plus de précisions avec Cyril Milando depuis Kinshasa, la capitale congolaise.
Je déclare à ce jour l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le secteur de Djera, territoire de Boende, district de la Chuapa, province de l'Équateur en République démocratique du Congo.
Après tant de spéculations, le gouvernement de la RDC, par l'entremise du ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a finalement annoncé cette nouvelle. Toutefois, il a insisté que le virus Ebola n'est pas à Kinshasa et encore moins à Mbandaka.
Le constat sur terrain montre que la maladie a déjà tué 13 personnes. Après analyse des 8 échantillons relevés sur terrain, l'Institut national de recherche biomédicale vient de confirmer que 2 échantillons sont positifs au virus Ebola. Je rappelle qu'il n'y a pas Ebola dans la ville-province de Kinshasa, moins encore en Mbandaka, et que l'épidémie est circonscrite à ce jour au secteur de Djera et que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour contenir cette épidémie dans le territoire de Boende.
Le gouvernement de la RDC reste disponible à tout appui de la communauté tant nationale qu'internationale. Un point d'information sera ouvert pour informer régulièrement la population. Kinshasa, Cyril Milando pour La Voix de l'Amérique.
La Libye est à nouveau dans la tourmente politique avec une milice islamiste contestant ouvertement la légitimité du Parlement élu après que ses combattants ont pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. La milice de la ville côtière de Misrata a appelé dimanche à la restauration de l'ancien Congrès général national.
Au Mozambique, le gouvernement et la rébellion de la RENAMO ont signé hier un cessez-le-feu dans la perspective des élections du 15 octobre prochain, a indiqué un responsable de la RENAMO. Un cessez-le-feu a été signé, même si tous les problèmes n'ont pas été réglés entre les deux camps, a indiqué à l'AFP le négociateur en chef de la RENAMO, Simon McQuine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a ciblé à nouveau la direction du Hamas dimanche, tuant un responsable financier du groupe islamiste. L'armée israélienne a déclaré que Mohamed Al-Ghoul est mort dans un raid aérien sur Gaza, quelques jours après une autre attaque ayant tué 3 commandants du Hamas. Israël décrit Goul comme un acteur important du Hamas qui a aidé à transférer de l'argent pour construire des infrastructures assimilées au terrorisme dans la bande de Gaza, y compris les tunnels utilisés par les militants s'infiltrant dans l'État juif pour des attaques. Goul était parmi au moins 12 Palestiniens tués dans 27 attaques aériennes dirigées contre le Hamas. L'armée israélienne a déclaré que le Hamas a tiré 50 roquettes sur Israël, mais aucun décès n'a été signalé.
La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré à Berlin que l'Allemagne n'enverra en aucun cas des troupes de combat en Irak. Cette déclaration a été faite lors d'une interview à la télévision dimanche, au cours de laquelle Mme Merkel a laissé entrevoir la possibilité de fournir des armes aux forces kurdes irakiennes qui luttent contre les militants islamistes dans le nord de l'Irak. Mme Merkel a également clairement fait entendre que ces armes ne pourraient en aucun cas bénéficier au PKK, qui a passé des décennies à lutter pour l'autonomie des Kurdes de Turquie et qui est classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne.
Quelques jours après le meurtre du journaliste américain James Foley par un militant de l'État islamique, un autre journaliste américain enlevé en 2012 en Syrie a été libéré hier par les rebelles islamistes. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les ravisseurs de Peter Thiel Curtis l'ont remis hier à un représentant des Nations Unies sur le plateau du Golan, qui l'a remis à son tour aux autorités américaines. Certains aspects de cette libération n'étaient pas clairs. Dans une vidéo publiée durant sa captivité, Peter Thiel Curtis avait expliqué qu'il était un journaliste de Boston et assuré qu'il était bien traité. Selon le Comité pour la protection des journalistes, il faisait partie d'une vingtaine de journalistes portés disparus en Syrie. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est félicité de sa libération, assurant que les États-Unis mettent à contribution leur réseau étendu de contacts diplomatiques, militaires et dans les milieux du renseignement pour faire libérer les autres otages américains retenus en Syrie. Le chef de la diplomatie américaine s'est dit soulagé que Peter Thiel Curtis ait recouvré la liberté après sa détention par le groupe Al-Nusra. Hier, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Westmacott, a confié à CNN que les spécialistes de son pays sont en passe d'identifier l'homme à l'accent britannique qui a décapité la semaine dernière le journaliste américain James Foley.
Ici aux États-Unis, le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré l'état d'urgence dans certaines parties du nord de son état après le tremblement de terre d'une magnitude de 6 la nuit dernière. Plus de 100 personnes ont été blessées. L'épicentre était situé entre San Francisco et Sacramento. La plupart des dégâts ont été enregistrés au niveau de la ville de Napa, dans la région viticole du nord de la Californie. Un certain nombre de bâtiments ont été endommagés et plusieurs ont brûlé lorsque des canalisations de gaz ont été rompues. La plupart des conduites d'eau et de gaz ont été coupées.
Par ailleurs, un séisme de magnitude 6,9 a frappé hier soir une région peu peuplée du sud du Pérou, près de la ville de Tambo, à environ 500 km au sud-est de la capitale Lima, où les habitants ont senti une légère secousse.
Enfin, les autorités italiennes ont annoncé avoir sauvé en 3 jours 3500 migrants qui tentaient d'atteindre les côtes d'Italie. 18 corps ont été repêchés dans la mer Méditerranée. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le nombre de migrants qui tentent de rejoindre l'Italie depuis la Libye et d'autres pays d'Afrique du Nord a augmenté cet été. La mer, beaucoup plus calme en cette saison, pousse de nombreuses personnes à tenter le voyage. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, plus de 100 000 personnes sont arrivées en Italie par la mer depuis le début de l'année 2014. Et beaucoup ont rejoint d'autres pays d'Europe. La commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Cecilia Malmström, s'est dit consternée par la mort des migrants et a confirmé l'engagement de la Commission européenne à aider l'Italie pour venir en aide aux migrants. Depuis octobre dernier, l'Italie finance des patrouilles aériennes et maritimes à hauteur de 13 millions de dollars après que 360 migrants aient trouvé la mort au large de l'île de Lampedusa. La guerre en Syrie, la dictature en Érythrée et d'autres crises aiguës en Afrique, comme la déstabilisation de la Libye, ont contribué à un afflux de clandestins en Italie.
Écoutez l'émission matinale Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Le sérum expérimental du nom de ZMapp qui a guéri 2 Américains infectés par le virus d'Ebola fait parler de lui en Guinée, un des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie mortelle. Pour en parler, voici un reportage de Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La guérison des deux Américains traités au sérum ZMAP, un médicament expérimental dont on parle beaucoup en Guinée, a suscité des interrogations dans la capitale guinéenne.
Au début, comme c'était seulement sur notre tête ici en Afrique, il n'y avait pas de remède ni de vaccin. Mais on a compris tout récemment qu'il pouvait y avoir de remède, mais c'est un refus. Parce que les deux Américains atteints sont guéris.
Depuis que la maladie a commencé, ils n'ont jamais pensé à trouver un remède par rapport à cette maladie. C'est lorsque l'un d'entre eux ou deux d'entre eux a été touché qu'ils ont pensé à trouver le remède.
Depuis janvier, la Guinée lutte contre l'épidémie d'Ebola. Au moins 350 personnes sont mortes et plus de 900 autres sont surveillées par les équipes médicales. De nombreux Guinéens n'attendent que l'arrivée de ZMAP pour guérir les malades d'Ebola.
Moi, mon attente, c'est que ça soit vraiment expérimenté, que ça soit aussi distribué pour tout le monde. Que ça soit envoyé dans nos pays qui sont touchés.
Si ils arrivent à trouver des moyens de nous apporter ça, que les Américains mettent ça dans la discussion des bas pays comme nous, on n'a pas les moyens de le faire, mais s'ils peuvent nous envoyer, ça va nous aider, ça va nous faire plaisir.
On souhaite que nous aussi ça arrive chez nous ici et que ces gens se méfient. Qu'on a toujours confiance qu'il y a Ebola. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai, mais il ne faut pas qu'on dise ça. On attend que notre gouvernement nous aide, nous aussi, pour avoir ces médicaments ici.
La Guinée vit l'état d'urgence sanitaire national depuis quelques jours et plusieurs compagnies aériennes ont cessé de fréquenter Conakry à cause d'Ebola. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Les chefs de la défense de 10 pays d'Afrique orientale ont promis un total de 5000 troupes en vue de former une nouvelle force régionale d'intervention rapide dont le déploiement est prévu pour décembre prochain. La confirmation est venue du porte-parole de l'armée rwandaise à l'issue d'une réunion à Kigali. Des précisions avec Jacques Aristide.
L'idée émane de l'Union africaine qui a élaboré un plan qui s'échelonne sur 10 ans et qui doit permettre à chacune des régions du continent de se doter de sa propre force de maintien de la paix pour parer à toute éventualité. L'Afrique orientale, elle, avance plus vite que prévu. Sa force d'intervention rapide doit amorcer ses opérations en décembre 2014. Le général Joseph Nzabamwita, porte-parole militaire du Rwanda.
It is a year earlier.
C'est en effet un an plus tôt parce que les chefs d'État de la région estiment qu'il y a une insécurité grandissante en Afrique de l'Est et qu'il est urgent de prendre des mesures. À titre d'exemple, le conflit sud-soudanais s'est étendu à la région côtière du Kenya, tandis que la situation en Somalie ne cesse de se détériorer. Hormis les 5000 soldats qui feront partie de cette force régionale, 4 unités de police comprenant chacune jusqu'à 170 hommes sont également prévues d'après le général Nzabamwita. Et d'ajouter qu'il appartient à chaque État membre de participer à un fonds qui devra permettre l'envoi de troupes au sol dans un délai aussi court que 14 jours. Le Burundi, Djibouti, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda, le Kenya, les Comores et la Somalie sont les pays contributeurs appelés à mettre en place le financement initial pour leurs forces régionales avant de se tourner vers l'aide des bailleurs de fonds étrangers si nécessaire. Pour l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, les blocs régionaux en Afrique jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans le maintien de la paix sur le continent et ils méritent le soutien total de la communauté internationale.
Au Burkina Faso, la journée de samedi a été mise à profit par l'opposition pour s'élever contre la modification de l'article 37 de la Constitution par voie référendaire qui permettrait à Blaise Compaoré de briguer encore un nouveau mandat présidentiel. La marche a mobilisé un grand nombre de personnes, mais qu'en sera-t-il après ? Une analyse de la situation dans ce reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
L'opposition politique burkinabé a réussi son challenge de par la forte mobilisation populaire. Mais, et après, c'est la question que nous avons posée à Rochmar Christian Kabore, le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès.
Pour l'instant, nous sommes dans un combat pour empêcher la modification de l'article 37. Ce qu'on peut constater simplement à travers cette mobilisation qui s'est faite sur quand même 10 km, c'est la mobilisation des Burkinabés contre tout pouvoir à vie. Je pense que cela est clair et il nous appartient en tant que parti d'opposition de transformer ça en une réalité concrète. Vous savez que nous sommes contre la tenue d'un référendum et que par conséquent, nous nous appliquons à mettre tout en œuvre pour que cela ne soit pas.
Pour Aziz Sana, le coordonnateur du mouvement Ça suffit, l'influence des marches-meetings est évidente.
La marche a permis jusqu'à aujourd'hui à ce que le processus référendaire ne soit pas lancé. Donc je crois que c'est un acquis jusqu'à preuve du contraire. Que le président de la République comprenne enfin que le peuple réel, le peuple ne veut pas de modification de l'article 37 et le peuple souhaite l'alternance. Je crois que c'est un message qu'il a compris jusqu'à aujourd'hui dans la mesure où il n'a pas lancé un processus référendaire. Donc nous allons continuer sur cette lancée-là.
Comme on pouvait s'y attendre, cette marche-meeting a été aussi l'occasion de revenir sur l'expression « homme fort, institution forte ». On écoute la réplique de Zéphirène Diabré, le chef de file de l'opposition.
Quand le peuple se met debout, les hommes forts deviennent des hommes forts au pied d'un gil. Les hommes forts se cachent. C'est un grand sacrifice que vous avez fait aujourd'hui pour permettre à l'opposition de montrer à la face du monde qu'elle est en phase avec son peuple.
La grosse hantise du moment, le virus Ebola, s'est aussi invité à la marche en ces termes avec Maître Binewende Sankara, le président de l'Union pour la Renaissance.
Nous avons noté que le gouvernement du Burkina Faso demande des milliards pour lutter contre Ebola, précisément 13 milliards. Et nous disons que dans la mesure où le référendum pour réviser l'article 37, qui aujourd'hui fait l'objet de débats, coûte cher, on peut utiliser à bon escient l'enveloppe éventuellement destinée à un hypothétique référendum pour lutter contre Ebola.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La dégradation de l'environnement devient une préoccupation majeure en ce 21e siècle. Et dans la mesure de ses moyens, l'Afrique se met au goût du jour pour tenter de limiter les dégâts en la matière sur le continent. Notre correspondante au Togo a enquêté sur l'utilisation des pesticides qui détruisent la biodiversité et a tendu son micro à des experts proposant des alternatives pour protéger l'environnement. On écoute Kaïl Osson à Lomé.
Au-delà de leur caractère dégradant de l'environnement, les pesticides constituent un problème de santé publique. Eric Asiglé, environnementaliste au ministère togolais de la Santé.
La plupart des êtres vivants, notamment les hommes, n'ont pas la faculté de digérer ces pesticides-là. Quand ces pesticides arrivent au niveau de l'homme, ils s'accumulent et causent des troubles hormonaux. Dans d'autres cas, cela peut être des malformations. Nous avons des enfants qui naissent sans aucun membre. Il y a des cultivateurs, à force d'être exposés aux pesticides aujourd'hui, qui ont des problèmes de mémoire. Les abeilles sont menacées dans certains milieux parce qu'on utilise trop de pesticides.
Malgré des sensibilisations, les insecticides sont encore utilisés à grande échelle dans le maraîchage à Lomé. Selon les professionnels du secteur, ces pesticides contribuent à une bonne récolte. Yaovi Haïté est maraîcher. Nous utilisons les insecticides pour combattre les bestioles qui détruisent nos jardins. Après l'utilisation des produits contre les vers parasites, nous attendons 8 jours avant de mettre les légumes sur le marché pour consommation. Les vers constituent l'une de nos pires craintes, car s'ils attaquent le jardin, le rendement est toujours déficitaire. L'autre problème, c'est l'utilisation non conforme des pesticides, comme c'est remarqué au niveau de la pêche. Amidou Sani, chef division de l'assainissement et de l'hygiène du milieu au ministère de l'Environnement du Togo.
Ceux qui utilisent l'insecticide pour capter les poissons dans l'eau, ça a un effet dangereux. Une fois qu'on met l'insecticide dans l'eau, elle détruit tous les poissons qui sont là, jusqu'à les petits poissons qui devaient grandir. Mais par conséquent, l'eau d'abord est déjà contaminée. Le poisson qui est tué contient déjà l'insecticide. Or, les espèces qui sont sur la terre ont des rôles biologiques. Donc, ils apportent leur contribution pour améliorer le sol, la terre, l'eau. Mais une fois qu'un insecticide arrive et qu'il y a un large spectre, il dégrade tout ce qui est à l'intérieur.
Au vu des dégâts que causent les insecticides et herbicides sur l'environnement, les experts recommandent des alternatives qui consistent à utiliser des procédés non chimiques. Nous retrouvons l'environnementaliste Eric Assiglé.
L'association des cultures, on peut associer l'haricot avec du maïs, par exemple. Et l'haricot a un pouvoir sur le sol, notamment l'apport d'azote, qui va faire qu'on n'a plus besoin d'utiliser de pesticides encore. En ce qui concerne la rotation des cultures, par exemple, cette année, si je plante de l'arachide, l'année prochaine, je ne vais plus encore planter de l'arachide parce qu'à force de planter de l'arachide à chaque année, les prédateurs de l'arachide vont se développer plus facilement dans le milieu. Également, utiliser des pièges à insectes au lieu d'utiliser des pesticides.
L'Afrique ne consomme que 4% des pesticides fabriqués dans le monde. Pourtant, plus de 65% des insecticides provoquent des intoxications au niveau de la population du continent noir. Ceci s'explique par l'utilisation des insecticides non homologués qui inondent les marchés africains. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
En Côte d'Ivoire, des groupes de jeunes surnommés Nyambro rançonnent les chauffeurs de transport de masse, communément appelés Gbaka, et empochent illégalement environ 200 000 francs, soit 400 dollars par jour. Partons à la découverte des Nyambro avec Germain Dri, notre correspondant à Abidjan.
Ce sont des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans qui, le long des routes de Yopougon, Abobo, Koumassi et Benjerville, soutirent de l'argent aux chauffeurs de Gbaka parce que, disent-ils, sont responsables de la petite parcelle qu'ils occupent avec quelques passagers venus eux-mêmes se trouver une occasion, soit pour se rendre au centre-ville et vice-versa. Une forme de raquette qui ne dit pas son nom. Sangaré Daouda, chauffeur de Gbaka.
C'est un travail d'escroquerie. Non, on ne sait pas où ça va. On se dit que non, eux-mêmes viennent chercher pour eux, mais l'aura fait avec la force. Et Nyamuroula, il nous fatigue beaucoup sur la route. Parce qu'on ne peut même pas prendre client dans un carrefour tant que non, il n'y a pas un Nyambro là-bas. Toujours, le gars, c'est de discuter avec les apprentis. Franchement, ça ne nous arrange pas.
Ouattara Mamadou affirme que les jeunes qui se livrent à cette pratique font d'énormes recettes.
Chaque arène, ils sont là. Et ils gagnent des 100 000 et 200 000 par jour. Mais ça ne va pas qu'ils gagnent eux-mêmes. Nous, on ne gagne rien du tout.
Pour Kone Karim, ce phénomène n'encourage pas les chauffeurs de Gbaka.
Ça nous décourage. Faire le chariot pour faire le descendre le client en bas des ponts, ça nous gêne là-bas. 100 francs, 200, bon, on comprend même rien dedans.
Les chauffeurs font remarquer qu'ils travaillent pour des personnes qui ne font pratiquement rien dans les activités de transport.
Tu veux travailler toute la journée, toi-même tu vas sortir 1000 francs, 2000 francs. Nous-mêmes qui travaillons, dis là, nous on gagne rien. Nyambro peut gagner 100 000, peut gagner 200 000.
Driasouba Adaman, passager, raconte sa mésaventure avec les Nyambro.
Une jungle, des gens s'arrêtent au bord de la route. Dès qu'il y a un passager qui monte, eux ils viennent, ils réclament le droit de terre, comme si la terre leur appartenait, comme si la route leur appartenait. Moi-même j'ai été agressé par un Nyambro qui m'a même dit ouais, qu'il faut prendre taxi pour aller, si tu veux pas monter dans le bar ici là. On va te suivre jusqu'à partout où tu vas aller pour prendre ton bar, on va te suivre là-bas. C'est une gangrène qu'il faut vraiment chercher à anéantir.
Ils sont toujours en groupe de 5 postés à des endroits précis. Selon un membre du groupe, le manque d'emploi est à l'origine de la création de cette organisation.
Comment on ne trouve pas du travail, on a fait comment? Nourrir nos enfants.
Aboulaye Sila, président du collectif des fédérations des syndicats de chauffeurs de Côte d'Ivoire, constate la situation créée par les chauffeurs, mais espère que les Nyambro disparaîtront bientôt.
Le phénomène Nyambro même, c'est les chauffeurs eux-mêmes qui ont fait venir les Nyambro dans les gares routières. Quand vous les chassez, ils n'ont plus d'activité. Ils viennent s'arrêter pour agresser vos passagers. Le ministère des Transports est en train de s'organiser pour ça et il y a de grandes décisions qui seront prises. D'ici fin 2015 même, vous allez voir toutes ces mauvaises pratiques vont disparaître.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. À présent, les sports avec Timothée de Nangmaï. Bonjour Timothée. Alors commençons par le football africain avec les matchs du week-end comptant pour les compétitions continentales interclub.
En Ligue des Champions, Al Ahly du Soudan a défait le Zamalek d'Égypte par 2-1 et match nul, 0 but partout dans le derby congolais mettant aux prises AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Match nul, 1 but partout entre le CS Sfaxien de Tunisie et l'ES Sétif d'Algérie. L'Espérance de Tunis a de son côté arraché 3 points en battant par 1-0 Ali Benghazi de Libye. En Coupe de la Confédération, match nul entre Al Ahly d'Égypte et Étoile du Sahel de Tunisie, 0 but partout. Victoire sans appel de CW Sport de Côte d'Ivoire, 3-0 sur Nkana de Zambie. Il y a eu aussi ce nul, un but partout entre AS Real du Mali et Coton Sport du Cameroun et la victoire par 4-1 d'AC Léopard du Congo contre l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire.
Et toujours en Afrique, la consternation demeure grande chez les fans algériens à la suite de la mort samedi de l'attaquant camerounais Albert Ebossé, victime d'un projectile à l'issue d'un match perdu par son club, la JS Kabylie, 2-1 face à l'USM Alger.
C'est un objet lancé des tribunes, apparemment par des fans de son club, qui a tué Ebossé, auteur d'un but dans ce match. De nombreux Algériens ont exprimé leur honte à la suite de cet incident. Le président de la CAF, Issa Hayatou, a demandé des sanctions exemplaires. Parlant d'une catastrophe pour le football algérien, le président de la Ligue nationale algérienne, Mahfoud Kerbadj, a rendu hommage au défunt joueur. Il était talentueux, comme témoigne son titre de meilleur buteur 2013-2014, très apprécié de ses coéquipiers comme de ses adversaires, a souligné Mahfoud Kerbadj.
Et pour terminer, Timothée, le coup d'envoi aujourd'hui à New York de l'Open de tennis des États-Unis, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.
Chez les messieurs, le tenant du titre, Rafael Nadal, a déclaré forfait à cause d'une blessure au poignet droit, ce qui laisse le champ libre à des joueurs comme Novak Djokovic, le numéro 1 mondial et vainqueur de Wimbledon. Il faudra aussi compter avec le vainqueur de l'Open d'Australie, Stan Wawrinka. Chez les dames, Venus Williams espère remporter son troisième titre consécutif de l'Open américain, surtout après sa sortie prématurée à Wimbledon. Elle devra cependant compter avec Maria Sharapova, qui a au palmarès 5 titres majeurs dans l'Open des États-Unis 2006. A préciser qu'à New York, les champions en simple, hommes comme dames, recevons chacun une enveloppe de 3 millions de dollars.
Merci Timothée pour cette page sportive. À bientôt, au revoir. À présent, une page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. Junior Gang n'est sans doute pas aussi évocateur que Marley, mais Damien, le fils du mythique Bob, se cache sous ce nom et ce surnom. Dans cette chanson Welcome to Jamrock, il aborde loin des préoccupations commerciales, la pauvreté et la violence qui dévastent la Jamaïque.
Out in the street, they call it murder.
Jamrock, jump where the thugs and camp at. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas.
Alors né en Jamaïque, le plus jeune fils de Bob Marley sort en 1996 son premier album Mr. Marley, produit par son frère Steven, n'est-ce pas?
Oui Nathalie, et c'est en 2001 qu'il commence alors à mélanger la tradition paternelle à la modernité dans Halfway Tree, élu meilleur album reggae au Grammy Awards. Le reggae jamaïcain avec toute la force de sa basse, de sa batterie et de sa vision de la société, hein, avec toute sa sensibilité, rencontre alors les rythmes du 21e siècle, le rap américain et les sonorités hip-hop ou R&B.
Damien Marley, welcome to Jamrock. Merci Roger.
Bonne journée Nathalie.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show chaque jour à 20h temps universel.
Pure ghosts and phantom, the youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call, old man to pick me. So wave on no one if you with me, to see this operation sick me. Them suit no fit me, to win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it, I get our education's basic.
Et c'est ainsi que s'achève le monde aujourd'hui. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous. And from now till the morning, no stop clock it.